On en jase le midi. Votre nouvelle émission sur Boulevard 101, le midi à 14h avec Jeff Fortin, Pascal CV. On commence toujours ça en force avec Antonine Iacarini. Pascal, ça va bien?
Ça va très bien.
Cool.
Toi?
On dirait
qu'on est encore l'été, là.
Ah oui, bien, des très, 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 très belles températures. Et d'ailleurs, tiens, on va sauter à la météo. 22 degrés. Présentement, 26 degrés au maximum aujourd'hui. C'est ensoleillé. 21 degrés demain, dégagement. Pour le moment, c'est de la pluie samedi, mais on s'en parle demain. Là, ça a le temps de changer rien qu'en masse. 418-971-1021 pour nous rejoindre par texto. Vous êtes énormément à le faire depuis le début de cette émission. On en jase. Ça a commencé mardi le 2 septembre. On fait réagir avec nos positions politiques. On est très, 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 très content de ça. Webradio blvd.fm. Application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store, toujours la meilleure façon de nous suivre partout où vous allez. On a énormément de camionneurs, de chauffeurs d'autobus qui nous écoutent, donc partout où ils sont. Ils nous entendent grâce à l'application et twitch.tv/BLVDFM également pour nous suivre. Pascal, nous autres, on perd pas de temps dans cette émission-là, on jase le midi. T'es-tu d'accord avec moi?
Ça part.
Ça part, parfait. Ben ça va partir drette là.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Antonine Iacarini, comment vas-tu, ma chère?
Comment ça pourrait mal aller? 22 degrés.
C'est l'été encore.
Mais c'est l'été, mais mieux. Pour moi, là, le mois de septembre, c'est le plus beau mois de l'année.
Pas trop chaud.
C'est rendu un des beaux mois en termes de température. Plus beau que le mois de juin, ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Beaucoup de gens prennent leurs vacances en septembre.
Vraiment.
Les chanceux, ceux qui n'ont pas d'enfants.
Et ceux qui n'ont pas de rentrée de quelque chose. Rentrée scolaire, rentrée radio.
On salue les gens sans enfants.
Ben ouais. On vit ça, nous autres, des rentrées scolaires et des rentrées radio. Ah ouais, ah ben oui, non, ça c'est notre réalité. Antonine, il faut commencer, on parle énormément de remaniement ministériel au niveau du gouvernement Legault, mais là, il y en a une qui a décidé de quitter le navire aujourd'hui. Elle l'a annoncé tout à l'heure à 11h dans sa circonscription de Chicoutimi, c'est André Laforêt. On l'écoute sur pourquoi elle décide de briguer la mairie de la ville de Saguenay.
Je vous cacherai pas que dans les derniers jours, depuis quelques jours, j'ai eu énormément de pression. Pression pour avec des gens d'affaires, pression des proches, pression du milieu communautaire, pression vraiment des organismes, plusieurs ici pour à Ville de Saguenay. Donc, évidemment, je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la pression est aussi intense? Alors, je me suis remise en question, puis ça fait vraiment quelques jours. Puis voilà, j'ai pris la décision de faire le saut municipal parce que je crois que ma ville a besoin vraiment d'un petit coup de pouce. Puis je suis fière de ma ville. Puis quand on travaille au Québec, partout au Québec, on voit toutes les municipalités. Puis je dis, hey, Caroline, ma ville, go, go, go. Alors là, je pense que je vais arrêter d'être observatrice, mais je vais essayer de mettre l'épaule à la roue. Ça me tente vraiment si les citoyens me font confiance.
Ma ville, go, 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 ou chaque mon camp, go, go, go de la CAQ?
C'est-tu le nouveau slogan, ça? Chaque ma ville, go, go, go. La pression. Je suis pas convaincue de cette ligne de communication.
Non, t'es pas convaincue que là, soudainement, en fin de semaine...
Ça fait 2-3 jours. Là, que...
Oui, c'est ça. En fin de semaine, ouais. Soudainement, il y a des dirigeants d'organismes communautaires qui ont appelé André et ils ont dit « André,
présente-toi.
On a absolument besoin de toi comme mairesse. » Et là, soudainement, les gens d'affaires ont dit « Mais qui pourrait être la meilleure mairesse pour Ville-Saguenay? » Mais c'est André Laforêt. Et là, ils l'ont appelé. On a fait des Teams, des Zooms. Et là, finalement, c'est pas parce que la CAQ va mal.
Non, finalement.
Elle s'est dit « Ma ville, go, go, go. »
Go, go, go. Écoute, moi, je salue toujours les gens qui veulent faire le service public, qui se présentent. Puis honnêtement, c'est bien correct là, que André Laforêt se présente à l'élection municipale. C'est son droit le plus entier. Mais disons que c'est son explication est un petit peu... Je trouve ça un peu exagéré. Là. Je trouve ça un peu gros. Là,
pourquoi? J'aimerais ça que tu développes là-dessus. Je trouve ça intéressant.
Deux choses. Premièrement, ça fait un an qu'on parle qu'André Laforêt va se présenter à l'élection municipale. C'est pas vrai que ça fait depuis quelques jours. Là,
oui, et ça, d'ailleurs, les journalistes... Les journalistes lui ont fait remarquer, ça fait un an qu'on vous pose la question, vous dites non, puis là, pourquoi aujourd'hui c'est oui?
Ah, ben là, ça, c'est en politique, tu ne peux que dire non jusqu'à ce que tu dises oui, OK? Monsieur Legault qui dit qu'il va avoir un remaniement 2 mois d'avance, c'est une nouveauté dans l'écosystème politique. On ne fait jamais ça d'habitude. Puis tant que tu n'es pas certain que tu vas faire quelque chose, tu as besoin de dire une réponse binaire, oui ou non, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Donc, c'est normal qu'André Laforêt, même s'il y avait des rumeurs depuis un an, répondait « Non, non, c'est pas dans les cartons, c'est pas dans les cartons. » Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Maintenant, c'est ça, c'est comme tu le disais, les sondages pour la CAQ, évidemment, c'est vraiment catastrophique. Tu regardes le site d'agrégation de sondages et de projection de sièges, Québec 125, puis les députés et ministres voient bien que ça va être un petit peu compliqué de regagner leur comté en 2026. Alors, tu te mets à réfléchir à ton avenir, ben puis oui, à regarder tes options.
Elle, c'était 51% présentement sur Québec 125 en faveur du PQ. Donc, elle a pratiquement zéro chance de l'emporter si elle reste députée.
Pour toi, c'est une longévité politique qui est en train de s'acheter, en fait.
Bien, en fait, qu'est-ce que tu veux faire après? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu vas être grande, André? C'est la question que tu poses dans ce temps-là. Et en plus, quand tu te présentes au municipal et que tu es député provincial, tu n'as pas à démissionner de ton siège de député jusqu'à ce que tu sois élu ou pas élu.
Ça, c'est intéressant.
Donc, si tu te présentes au fédéral, c'est différent. Tu dois démissionner. C'est ce qu'Éric Lefebvre, d'ailleurs, avait fait dans Arthabasca. Mais là, Mme Laforêt, en plus, elle a une assurance. Si jamais elle perdait, elle pourrait dire oh, « Finalement, je suis très, très contente. Là, j'ai eu beaucoup de pression pour rester députée. » puis m'occuper de ma belle circonscription dans ma région. Donc, elle a une assurance, même si elle devait ne pas gagner. Cela dit, elle a quand même des bonnes chances de l'emporter. Oui, la CAQ est impopulaire. On a l'impression que c'est épouvantable puis que tous les ministres sont impopulaires. Mais Mme Laforêt, elle a été ministre pendant 7 ans, ministre des Affaires municipales. Elle n'a pas eu énormément de controverses, Mme Laforêt. Il y en a une là, avec la garderie de sa famille là, que gère ses filles. Mais
elle a quand même une certaine notoriété aussi par rapport à où elle était placée. Tu sais, je veux dire, elle n'était pas dans Grand Montréal. Là.
Non, et surtout, ça ne va pas très bien en ce moment à Saguenay pour la mairesse actuelle. Il y a une occasion ici à saisir. Là.
Oui, rappelons-le, Julie Dufour, justement, qui a été reconnue coupable d'avoir tenté de truquer les élections en offrant des postes à ses adversaires politiques. Puis André Laforêt, en plus, elle est quand même celle qui a réussi à signer 2 pactes fiscaux importants avec l'ensemble des municipalités. Alors, somme toute, elle est aimée là, au Saguenay et dans sa circonscription de Chicoutimi.
On verra bien, parce que de toute façon, là, on n'a pas de sondage comme tel, mais on sent qu'il y a une croisée des chemins là, pour cette municipalité-là. Julie Dufour qui a le droit de se présenter quand même, étant donné qu'elle fait appel. Mais dans les faits, c'est une situation qui est vraiment très, très particulière. Donc, André Laforêt a des bonnes chances de l'emporter.
Exactement. Il y a Luc Boivin également, le propriétaire de fromagerie Boivin, qui va se présenter à la mairie de Saguenay. Ça m'amène à te parler de remaniement ministériel imminent. François Legault ne l'a pas caché en début de semaine prochaine. On parle de plus en plus que la session parlementaire serait prorogée jusqu'au 30 septembre, le temps de donner justement l'opportunité à ces nouveaux ministres de se faire la main avec leurs nouveaux dossiers.
Puis faire tomber la poussière, hein?
Oui, un peu. Hein?
Avec le passage de François Legault en commission.
Ah oui, y a-tu de la poussière?
Ben, y a un petit peu de poussière, un peu de brouillard. Un petit peu de brouillard à enlever. Ça ne veut pas dire que les choses vont aller mieux politiquement au début octobre pour une rentrée parlementaire, mais effectivement, on se donne un petit temps d'arrêt. C'est un outil que les gouvernements ont, la prorogation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on met fin à la session. Bon, ça ne me dirait pas commencer, mais on repart les compteurs à zéro. Donc, les projets de loi qui sont déjà à l'étude, qui étaient déjà déposés, c'est tout dans la déchiqueteuse. Ils meurent au feuilleton, tu sais, quand on dit quelque chose, ils meurent au feuilleton.
Ça fait-tu mourir au feuilleton, le projet de loi sur le seuil d'immigration de Jean-François Roberge?
Ça fait tout mourir au feuilleton.
OK.
Mais on peut redéposer intégralement des choses déjà déposées, mais il faut quand même recommencer certaines étapes. Donc, on repart les compteurs à zéro. Ça nous permet aussi ça permet au gouvernement de décider de la date de la rentrée, de changer la date de la rentrée. Et ça permet aussi au premier ministre de faire ce qu'on appelle un discours d'ouverture. C'est comme notre équivalent non monarchique du discours du trône à Ottawa. Je ne pense pas que le roi Charles va venir le prononcer à l'Assemblée nationale. Ça devrait être M. Legault. Et ça permet comme ça au premier ministre d'établir ses priorités pour la dernière année avant l'élection. Est-ce que ça va tout changer? Est-ce que les gens vont être reséduits par François Legault? Pas nécessairement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit politiquement, beaucoup de difficultés pour M. Legault à passer ses messages. Il y a quand même une vision économique, M. Legault, une vision liée à l'énergie. Hein. Il veut faire des grands projets d'énergie. Il y a une opportunité avec le gouvernement fédéral en ce moment de faire des grands projets. Et ce n'est pas quelque chose qui est porté beaucoup par les autres partis politiques. Donc, il y a une occasion quand même de passer son message de manière plus forte, en plus avec un nouveau conseil des ministres. Est-ce qu'un nouveau conseil des ministres, ça change tout? Ben non, c'est quand même des caquistes, c'est quand même les mêmes députés, c'est un peu la même gang, mais il peut y avoir certains nouveaux députés aussi qui font leur entrée au Conseil des ministres, ça peut apporter qui sait, une nouvelle énergie aussi.
Clairement. 418-971-101 pour réagir. Et sur André Laforêt, là, justement, là, il y a Claude André qui écrit « Fine stratège pour sa carrière, mais son message de justification est absolument sans pertinence. » Et ici, on parle également à un autre auditeur de pension. Ça va lui permettre d'atteindre justement le fameux 8 ans pour avoir sa pension.
Ça, ça dérange tellement les gens là, et qu'ils calculent le nombre d'années en politique. Mais Antonine, si, tu as quelque chose à dire là-dessus.
Si André Laforêt gagne, elle n'atteindra pas son 8 ans.
Oui, c'est ça. Puis, c'est en cas de défaite.
C'est en cas de... En fait, c'est ça. Si elle est défaite à la municipalité, elle pourra continuer son rôle de députée puis atteindre son 8 ans. Puis d'ailleurs, on me pose souvent la question, penses-tu qu'il va y avoir des démissions, d'autres démissions cette année, des départs, puis surtout à la suite du Conseil des ministres? Si jamais quelqu'un perd son portefeuille et est fâché, va quitter. Juste vous dire qu'il y a une prime de départ aussi. On accumule, quand on est en cabinet comme ministre ou comme employé politique, on cumule une prime. Et ça, ben c'est quand tu as atteint un certain nombre d'années. Puis d'ailleurs, je pense qu'à 7 ans, tu es pas mal topé, là, comme on dit dans le langage de la colline parlementaire. Et en fait, c'est comme de dire que si tu quittes avant la fin de ton mandat, tu vas mettre une croix sur 200 000 piastres. Je sais pas pour vous,
ça peut monter jusqu'à 200 000 à 7 ans, mettons.
Ça dépend. En fait, ça va être calculé sur ta plus haute rémunération.
Okay.
Donc, puis on cumule 2 mois par année. Okay. De service à peu près. Donc, je m'excuse, là, mais Pierre Fitzgibbon, il s'en foutait de ça.
Oh, oui.
Ben, la plupart des gens, comme un immortel,
aiment beaucoup avoir cette prime de départ.
Mettons que c'est 50 000, 100 000, 150 000, c'est des montants.
C'est plus qu'à poule aux odeurs, puis combien voudrait aller à poule?
Exactement. Bon.
Pour André Laforêt, on va en parler plus en détail avec Rémi Villemur tout à l'heure aux alentours de 13 heures. Je reviens sur le remaniement ministériel. Geneviève Guilbeault, François Bonnardel, tu t'attends à quoi? Hier, le bruit courait justement à l'Assemblée nationale, à la colline parlementaire, que seulement Christian Dubé restera à la santé, puis le reste, on fera un gros calebrasse. Tu crois-tu à ce calebrasse-là?
Bien, il a tellement dit d'avance, M. Legault, qu'il fera un remaniement, que les attentes sont élevées. Je sais de source sûre que plusieurs ministres ont demandé à garder leur dossier. Mm-hmm. Donc, c'est pas tout le monde qui veut bouger, mais c'est pas garanti, surtout si tu dis que t'es pas sûr que tu te représentes en 2026.
Oui, c'est ça, parce que là, tu as un Simon-Jolin Barret qui fait quand même un excellent travail.
Ben oui.
Jean-François Roberge de l'immigration, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'on va vraiment rebrasser à ça pour grand complet comme ça?
En même temps, si tu les passes un par un et que tu n'en changes aucun, ça ne sert à rien. Fait qu'il n'y a pas le choix de bouger les choses. Éric Girard, ministre des Finances, est-ce que quelqu'un d'autre serait en mesure de... T'sais, moi, je voyais Christian Dubé aux Finances, mais Christian Dubé, c'est sûr qu'il reste à la santé, c'est dit ouvertement. Mais il paraît qu'il pourrait bouger. Donc, qui pourrait se retrouver...
Jolin Barrette pourrait se retrouver aux Finances? C'est quand même un ministère qui peut te mettre en valeur.
Mais tu y touches pas. Il réussit tellement, ça fonctionne. Il n'est plus dans Infoman comme étant le robot de service.
Non, puis il livre des choses.
Oui, mais tu sais, je me fais l'avocat du diable. Là. Admettons que Jolin Barrette prend les finances, puis qu'on diminue drastiquement ce fameux déficit-là. Là. Il vient-tu de gagner en crédibilité?
Mais honnêtement, je veux vraiment pas être pessimiste, mais je pense pas que c'est par manque de volonté qu'Éric Girard ne descend pas les déficits. Ouais. C'est un conservateur en plus dans l'arbre.
En effet.
Donc, bref, on verra bien. Il pourrait... Mm-hmm. Jean Boulet, qui est un avocat, pourrait aussi être ministre de la Justice, d'ailleurs.
Moi, je toucherais pas à ça, parce que, tu sais, je le dis souvent en ondes, le remaniement ministériel en ce moment, je le comprends de façon superficielle, mais on dirait que c'est vraiment quelque chose dans la vie, dans l'analyse que je fais personnel de la politique, que je saisis pas, qui semble être vraiment un compound total, là, une cire d'application avec un nettoyage complet de la voiture. En ce moment, en plus, à l'aube d'élection, je le trouve encore plus superficiel qu'à l'habitude, versus quand tu as vraiment une refonte du parti ou que tu viens de te faire élire puis il faut que tu mettes tes ministres en place.
Mais c'est toujours ça. Là, c'est parce que la CAQ est tellement basse dans les sondages que tout... Puis en passant, on est dans un moment de cycle politique où, peu importe ce que la CAQ fait, là, tout le monde dit que c'est bien épouvantable. Soyons honnêtes, il n'y a rien qui passe. En 2018, quand ils sont arrivés, là, tout ce qu'ils faisaient, là, tout ce qu'ils touchaient se transformait en or. Là, tout ce qu'ils touchent se transforme en...
En boîte.
En citrouille, je sais pas comment le dire, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Un remaniement ministériel, c'est quand même, ça a un impact. Ça bouge les choses. Les ministres sont là depuis tellement longtemps. À un moment donné, tu peux être un petit peu dans tes pantoufles, peut-être. Donc, il peut avoir une nouvelle énergie qui est là, surtout si tu fais rentrer des nouveaux joueurs, les noms qui circulent de députés qui ne sont pas ministres, qui pourraient le devenir, Samuel Poulin. En plus, il est en Beauce, une région, évidemment, où est-ce qu'on a le Parti conservateur dans le rétroviseur. Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup, si je ne m'abuse, qui aussi fait partie des noms qui circulent. Il y a aussi Mathieu Lévesque en Outaouais. Donc, il y a des nouveaux visages qui pourrait apporter.
Jean-François Simard, ici, sur la Rive-Nord également, ancien ministre péquiste. Mm-hmm. Donc, connaît bien
mais
la machine.
Mais j'en viens à ta question, parce que tu me parlais de Bonnardel
oui,
et Bonnardel de Guilbeault.
Oui, Bonnardel et
Guilbeault. C'est vraiment les deux qu'on va surveiller. Parce Clairement. Que ça va envoyer un message. Si le premier ministre les rétrograde, alors que le rapport Gallant n'est pas sorti, alors qu'on essaie évidemment de dire que c'est de la faute de la SAC, que ce n'est pas de la faute des ministres, ben on a l'impression qu'on les punit, donc on avoue que les ministres ont fait une faute. Si on leur donne une promotion, ou là, les gens vont dire qu'il n'y a pas d'imputabilité, y a ça, nanana, ça va être difficile aussi politiquement. Donc moi, je me prévois un petit mouvement horizontal pour ces deux ministres-là.
Un petit entre-deux. Là.
Mais si, par exemple, on enlève le poste de vice-première ministre à Geneviève Guilbeault, t'sais, on veut juste rappeler le ton qu'elle avait dans le courriel qu'elle a envoyé au premier ministre, où est-ce qu'elle dit « Moi, je me suis retrouvée à ramasser, excusez-moi, je la cite, le merdier. » Et que là, elle perd quelque chose, elle va se dire « Hey, moi, je prends des balles pour l'équipe, puis c'est comme ça qu'on me remercie. Est-ce qu'elle pourrait décider de rentrer chez elle? » Je le disais tantôt, il y a de l'argent en jeu, puis c'est pas évident, là. Mais il y a ça à gérer pour le premier ministre aussi.
En effet, t'as entièrement raison. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, on est dans le caucus Iaccarini avec Antonine Iaccarini. On fait ça du lundi au jeudi, de midi à 12h30 dans l'émission « On en jase le midi ». Bon, midi 17, Antonine, je veux absolument te parler de notre entrevue avec Éric Duhaime de ce matin, mais avant, tu m'as allumé sur quelque chose un matin, tu m'as dit « Jeff, c'est la folie des nominations ».
Nomination pour tous.
Ouais, nomination pour tous. Là, c'est quoi? On récompense nos amis caquistes, on leur donne des jobs à vie au gouvernement parce qu'on sait qu'on va perdre.
Écoute, premièrement, c'est pas des jobs à vie, ils sont pas nommés juges de la Cour suprême. OK, on va se calmer les jobs à vie.
OK, remets-moi sur terre. Bon. Remets-moi sur terre.
Tu sais, moi, j'essaie toujours d'éviter le cynisme puis d'apporter un autre éclairage.
Ah,
là, pour
tu me ramènes tellement dans des bonnes grâces. C'est pour ça que j'aime ça travailler avec toi. Vas-y.
Mais ça fait aussi des fois que j'ai l'air de défendre l'indéfendable, mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça regarder les deux côtés de la médaille. Hier, très, très court conseil des ministres. En passant, là, ça...
55 minutes,
écoute, bonjour. Bonjour tout le monde, là, Monsieur Legault, il a dit ça, il a dit pour plusieurs d'entre vous, c'est votre dernier conseil des ministres. Donc, une grande nostalgie, mais ils ont quand même eu le temps de procéder à certaines nominations. Puis moi, le mercredi à 17h, j'adore lire le communiqué des nominations du conseil des ministres, c'est une tradition. Je le regarde d'un coup que j'ai été nommé quelque part. Tu te rends compte que tu es rendu délégué du Québec à Paris. Hey, je pense qu'ils t'avertissent avant.
Puis là, il faudrait qu'on fasse nos chroniques par Zoom. Tu
de
à
la
Paris
Tour Eiffel.
6 heures plus tard, exact, avec une petite coupe de vin.
Mais elle se fait surveiller encore plus, là, la petite Antonine.
Fait que non, c'est pas pour demain, la veille, je reste avec vous. Mais hier, il y avait une nomination qui a accroché mon attention, celle de Francis Côté. On parlait d'André Laforêt il y a quelques instants, mais c'est son ancien directeur de cabinet, Francis Côté. Il a été aux affaires municipales pendant un bon bout de temps et dans le présent mandat, il était directeur de cabinet de Benoît Charrette. Il a quitté le printemps dernier. Son directeur de cabinet adjoint qui avait pris la relève. C'est quelqu'un qui est très, très apprécié, reconnu comme étant très, très compétent. C'est juste que c'est comme le 12e directeur de cabinet qui est nommé dans l'appareil gouvernemental. Je pourrais vous nommer plein de noms, mais l'ancien directeur de cabinet de Simon-Jolin Barrette et Bernard Drinville a été nommé aussi dans l'appareil. Denis Simard, ancien directeur de cabinet de M. Boulet, M. Roberge, qui a été nommé justement délégué à l'étranger. Alexis Aubry, Marie-Ève Bédard, Marie-Josée Lestage, Carl Renault, c'est tous des anciens directeurs de cabinet qui ont été nommés dans l'appareil gouvernemental. Et là, la question arrive, est-ce que ce sont de vilaines nominations partisanes?
Ouais, est-ce que c'est ça?
Que la CAQ dénonçait quand
oui,
elle
je me souviens d'avoir entendu François Legault. Les libéraux font des nominations partisanes, Philippe Couillard.
C'est terrible. Mais je me rends compte que les nominations partisanes, c'est quand c'est les autres qui les font, que ça s'appelle une nomination partisane. Quand c'est nous, on nomme des gens compétents dans des postes qui leur conviennent. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'un gouvernement nomme des gens dans ma chine. Je vous le dis, là, puis au Québec, au Canada, on a une tradition d'institutions britanniques. On est très prudent dans les nominations. Aux États-Unis, quand il y a un nouveau président qui arrive ou un nouveau gouverneur qui arrive, là, tout le monde se fait sacrer à la porte, puis on rentre notre
c'est
monde.
C'est tellement vrai.
On n'est pas comme ça ici. On a une certaine continuité. Les fonctionnaires ne vont pas être complètement remplacés. Mais c'est normal qu'un gouvernement nomme certaines personnes dans des postes dans l'appareil gouvernemental. C'est juste que quand on met en comparaison avec le discours qui était tenu dans l'opposition... Ben finalement, ce que ça donne comme impression, c'est que les gens vont arriver à la conclusion, ben les politiciens sont tous pareils. Voyez, ils dénoncent quelque chose, puis après ça, ils le font. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé en cabinet pendant plusieurs années. J'ai travaillé avec des fonctionnaires qui avaient été nommés par des gouvernements précédents. J'en ai connu des très bons, j'en ai connu des moins bons, j'en ai connu des pas partisans du tout, j'en ai connu qui étaient plus partisans, qui nous faisaient des fois des petits coups, des petits mauvais coups, ben qui allaient pas vite vite quand on leur demandait quelque chose. Ça fait partie évidemment de la vie, mais là, tu sais, est-ce que les autres partis, par exemple le PQ qui est premier dans les sondages, est-ce qu'ils vont déchirer leur chemise à chaque fois qu'un directeur de cabinet se fait nommer dans la machine? Parce qu'après ça, si tu gagnes l'élection puis que tu te mets à faire les nominations, mais on alimente encore le cynisme, une roue qui tourne.
Des gens qui sont qualifiés, comme tu le dis, qui connaissent l'appareil politique, ça doit aider énormément à ne pas perdre de temps.
Bien, c'est ça aussi, c'est des gens qui connaissent comment ça fonctionne. Puis on élit des gouvernements pour qu'ils mettent en place des politiques. Fait que c'est normal aussi qu'on veuille que l'appareil administratif déploie ce qu'on a voté.
Je sors de mon cynisme 2 secondes et je me mets dans le stratégique. Perdre autant de directeurs de cabinet l'approche d'une élection, c'est pas se tirer dans le pied?
Oui, puis ça, c'est l'autre aspect de cette nouvelle-là. C'est que les cabinets se vident en ce moment. Il y a vraiment un grand renouvellement des directeurs de cabinet, directrices de cabinet très jeunes qui sont nommés.
Donc là, on va aller avec des juniors en élection où on est déjà en difficulté.
Bien, en fait, il se passe exactement ce qui s'est passé avec le gouvernement Trudeau dans les dernières années. Il y avait beaucoup de départs quand les sondages n'allaient pas bien, des personnes très jeunes qui se retrouvaient dans des postes clés, ce qui n'est pas toujours mauvais en passant, moi, je pense. Que la jeunesse apporte
Pablo
aussi
Rodriguez, c'est parti, il le regrette peut-être maintenant.
Peut-être qu'il le regrette. D'ailleurs, il y avait des ministres qui avaient dit qu'ils quittaient et qui ont changé d'idée là, quand oui. M. Carney est arrivé. Cela dit, oui, il y a quand même pas mal de départs dans les cabinets, c'est normal. Après 7 ans au pouvoir aussi, tu sais, c'est des cycles politiques qui sont normaux, là. C'est pas spécial à la CAQ.
Éric Duhaime est en entrevue avec nous ce matin. C'était sa première sortie médiatique depuis sa défaite dans Arthabasca, depuis la fin de ses vacances. Il a tenu une conférence de presse par la suite à l'Assemblée nationale sur l'économie. Je te fais entendre 3 extraits, justement, de cette entrevue-là avec Éric Duhaime. La première, c'est qu'Éric Duhaime s'est encore positionné en victime politique des autres partis. Je veux t'entendre par la suite.
La raison pour qu'on a été battu, c'est pas compliqué, là. C'est que les 4 partis sont ensemble. Je veux dire, si tu regardes ça, QS est passé de 9 à 1%. Les libéraux qui étaient à 15% une semaine avant ont fini à 9. La CAQ est passée de 52 à 7. Ils se sont tous mis avec le PQ. Et si je parlais avec Pierre Poilievre, même dans les jours qui ont suivi, puis on est arrivé au même constat, il est arrivé à la même chose qu'à nous autres que ce qui est arrivé à Pierre Poilievre. Je veux dire, les forces du statu quo se mettent toutes ensemble pour empêcher le changement. Et c'est bizarre, là. Pensez-y, là. Il y a des gens, là, puis au Québec, on l'a vu, là, des souverainistes qui se sont bouchés le nez puis qui ont voté pour le Parti libéral du Canada pour empêcher les conservateurs de gagner. Ouais. Là, sur la scène québécoise, on a vu l'inverse. On a vu des fédéralistes libéraux rouge-tomates se boucher le nez puis voter pour le PQ pour empêcher les conservateurs de gagner dans Arthabasca. C'est ça qui s'est passé.
Les pauvres conservateurs, autant au Québec qu'au Canada, qui perdent, et pas par leur faute, pas parce qu'ils sont brouillons dans leurs propositions, dans leurs annonces, pas parce qu'ils sont pas capables de parler à la majorité des gens. Non, c'est à cause des autres. Là, ils sont mis 4 contre moi, je fais pitié. Plus capable d'entendre ça.
C'est vraiment un discours de victimisation. Puis le vote stratégique, là, ça n'a pas été inventé cet été dans Arthabasca.
Ben non.
Ça fait toujours partie du portrait. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un vote stratégique? Absolument. Mais je trouve que c'est vraiment une mauvaise ligne parce que, bien, premièrement, ça risque de réarriver en 2026 dans l'autre comté dans lequel il va se présenter. Tu sais, c'est pas spécial à Arthabasca. Ça démontre aussi, deuxième élément, que Éric Duhaime est polarisant. Donc, il faut qu'il fasse une auto-évaluation aussi de tout ça.
Hey, j'aime ça, ça.
Il y a des gens qui l'adorent. Okay? On sentait un mouvement pour Éric Duhaime dans Arthabasca. Il y avait pas mal de monde dans ses rassemblements. Et ça marchait bien son porte-à-porte, surtout dans le milieu plus rural de la circonscription, bien sûr. Mais il y avait un mouvement, puis il n'a pas réussi à se faire élire parce qu'il y a du monde qui l'adore, il y a du monde qui le déteste assez pour se boucher le nez, peut-être, pour voter pour un parti qui ne serait pas nécessairement son premier choix. Mais ça, il va être pogné avec ça pour toujours, ça veut dire. Donc, il y a une réflexion à faire là-dessus et voir jusqu'où il est prêt à faire des compromis aussi. Mais moi, il y a un autre élément, puis évidemment, lui, il ne dira pas ça, là. Mais moi, je pense qu'Éric Duhaime doit clarifier ses positions. Parce que, je vous l'ai écouté ce matin, là, quand il était à l'émission avec vous autres ce matin, c'est pas toujours clair, ses positions. Il y a des choses sur lesquelles il est très, très affirmatif. Bon, mon char, mon choix, ce qu'il appelle la taxe carbone, etc. C'est très clair, c'est des lignes qui sont simples. Mais après ça, quand on tombe dans d'autres sujets, avoir une réponse claire d'Éric Duhem, c'est quand même compliqué. Deux exemples. Ce matin, vous avez parlé de souveraineté. On en parle beaucoup de souveraineté. Puis
je te ferai entendre l'extrait par la suite.
Exactement. C'est pas évident de comprendre c'est quoi la position de son parti.
Je suis très nationaliste. Ouais. Je suis Québécois d'abord et avant tout.
Mais tu as été dans l'ADQ de Mario Dumont qui était dans le camp du oui. Tu es souverainiste ou non?
Ce que je viens de te dire, c'est que je ne pense pas qu'on ferait avancer les intérêts du Québec puis le pouvoir québécois avec un troisième référendum perdant. Je vais tout faire pour pas qu'il y ait de référendum. Vous avez entendu ce que Lucien Bouchard a dit récemment. Je pense que c'est des sages paroles. Malheureusement, Paul Saint-Pierre Plamondon ne l'écoute pas encore. Je pense qu'il va reculer personnellement. Là, je pense qu'à un moment donné, il n'y aura pas le choix de reculer parce que c'est totalement irresponsable, la position du Parti québécois à l'heure actuelle. Je vais vous donner l'exemple d'Arthabasca. Dans Arthabasca, là, il y a 30 % de souverainisme. Le Parti québécois a eu 46 % des votes. Il y a près de 40 % des gens qui ont voté Parti québécois qui voteraient non à un référendum. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il y a quelque chose présentement qui est en train de se produire. Il faut dire aux gens que voter pour le PQ, c'est un référendum. Il faut que les gens se réveillent, puis réalisent que il y a une menace. Puis
je croirais entendre Jean Chrétien, mon Dieu.
Oui, mais c'est ça. Puis en fait, c'est que les gens le savent qu'il y a un référendum. Il dit, faut le dire aux gens. Les gens ne sont pas idiots. Ça fait depuis que Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du PQ qu'il dit ouvertement, le PQ n'a jamais été aussi assumé que depuis que c'est PSPP qui en est chef. Donc, les gens le savent et sont prêts à voter pour le PQ, même si on promet un référendum. Peut-être qu'ils ne sont pas pour la souveraineté et que ce n'est pas leur priorité tous les instants, mais les gens n'ont plus peur d'être consultés et d'avoir un référendum. Bon, peut-être qu'ils ont oublié le mélodrame de 1995, je m'en souviens très bien.
Je m'en souviens, mais une chose est sûre, c'est que on peut pas non plus... Puis moi, je le dis, je suis un souverainiste à être convaincu. Tu sais,
T'es parlable.
J'ai été longtemps fédéraliste, puis là, je tente les deux avec la façon que mon Canada est géré, je vais le dire. Amis souverainistes, vous pouvez m'attirer.
Appelez-le.
Vous pouvez m'attirer. Mais cela dit, on oublie que ça va jouer dans une campagne référendaire. T'sais, tu peux pas affirmer aujourd'hui, ben voyons donc, c'est 36 % de la souveraineté. Il y a 40 % des gens d'Arthabasca qui ont voté pour le PQ qui voteraient pas pour la souveraineté. Fait que pourquoi qu'on ferait un référendum? Une campagne électorale, ça sert encore en quelque chose. Ben Même principe pour une campagne référendaire.
Il est honnête avant d'être élu. La chose que moi, j'ai toujours dite par rapport à Paul Saint-Pierre Plamondon quand tu parles de référendum, c'est qu'il tient son point en n'étant pas encore élu. Il fait sa campagne en disant haut et fort, en disant, si vous pensez que c'est une histoire de dixième priorité. Non, c'est la ligne de base de notre parti, puis on va la tenir. Au sein même du PQ, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais lui, il va quand même de l'avant avec ça, puis il nous le dit avant l'élection. Fait que si ça avait qu'à arriver...
Tu dis que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Lucien Bouchard, il a toujours dit ça. Je veux dire, il y a rien de nouveau là-dedans. Il le dit publiquement. C'est une des belles-mères du PQ. Parizeau, c'était le contraire. C'est comme ça au PQ.
Parce que ça bouge un peu en ce moment. Il y en a qui disent, on est à veille de se faire élire, on pourrait être majoritaire.
Mais
on joue pas avec les comptes sensibles.
Deuxième point, c'était l'immigration que tu venais nous parler aussi en tant qu'Éric Duhem qui est brouillon.
Écoute, pendant la campagne dans Arthabasca, j'ai été attentive à ses prises de position, puis notamment dans le cadre de débats radiophoniques. Il s'est fait poser la question, c'est quoi la position du PCQ sur l'immigration? C'est quoi les seuils d'immigration que vous proposez? Oh, moi, les seuils là, puis les chiffres, là, moi, je veux pas trop embarquer là-dedans. Puis je suis bien tannée que les partis fassent de la politique sur le dos des immigrants. OK, maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Bien, c'est aux régions de décider, dans le fond, du nombre d'immigrants. OK, là, moi, je veux bien. De toute façon, ça paraît bien toujours de dire, moi, je veux dire, les régions vont décider.
Bien, ils se présentaient dans une région, donc ils parlaient de région.
Bien oui, puis moi, je suis pour ça que les régions aient l'autonomie. Maintenant, l'immigration, c'est déjà un fouillis, je veux juste vous le dire, entre le fédéral puis le gouvernement provincial, c'est d'une extrême complexité. J'aimerais ça qu'ils développent un peu sa pensée. Comment ça va marcher, Éric? Les gens vont faire, il va y avoir des planifications pluriannuelles de l'immigration dans chacune des régions. Puis mon guess, c'est que, évidemment, quand tu penses individuellement, tu dis, moi, j'ai tant de jobs à combler, j'ai mes entreprises, ils me disent qu'ils veulent des immigrants, bien, j'aurais besoin de tant d'immigrants. Puis là, tu vas tous les additionner, puis ça va donner un chiffre complètement fou, là. Je veux juste vous le dire, là. Puis les municipalités, c'est pas nécessairement elles qui s'occupent des hôpitaux puis des écoles. Donc, ils vont dire, bien, moi, j'en ai besoin, puis c'est ça le chiffre. Qu'est-ce que tu vas faire avec
c'est
ça?
C'est ce que j'allais dire. Et là, la crise du logement, soudainement, n'existera plus. Non. Il va y avoir assez d'organismes communautaires pour accueillir tout ce monde-là. Puis, on va avoir assez de ressources en santé, en éducation.
Il y a des consultations quand vient le temps de fixer les seuils d'immigration. Puis le monde municipal est consulté, le monde des affaires est consulté déjà. Maintenant, moi, j'aimerais ça qu'Éric Duhem nous dise c'est combien, là. son chiffre des seuils d'immigration. Je comprends que c'est pas juste ça, l'immigration. Mais bref, il va falloir qu'il clarifie ses positions. Puis c'est pour ça aussi que je trouve dommage qu'il n'ait pas été élu. Parce que s'il était à l'Assemblée nationale, on pourrait le pousser, le challenger un peu plus pour qu'il développe sa pensée plus clairement sur, sur certaines choses.
On revient avec le fait, justement, qu'il n'a pas été élu. Il fait encore une fois porter le blâme aux électeurs d'Arthabasca. C'est le dernier extrait. On l'écoute.
Puis oui, je considère encore que ça a été une occasion manquée. C'est pas normal que dans un État démocratique comme le nôtre, qui ait plus d'un demi-million de Québécois, qui ait pas un siège sur 125. C'est pas normal qu'un Québécois sur 8 a 0 sur 125. C'est pas... On vient de parler du modèle québécois, là. On est les seuls qui avons une vision différente. Puis aujourd'hui, là, je prépare à l'Assemblée nationale pour en parler.
Mais c'est pas la faute d'Arthabasca, ça. Puis c'est un peu le point qui revenait. C'est qu'on dirait que c'était comme... C'est votre faute si je rentre
j'ai jamais
pas
blâmé
la...
personne. Là.
Mais
ce
ça
que je
sonnait
disais,
de même.
Ce que je disais, c'est que ça a été une occasion historique qu'on a perdue. Parce que c'est pas juste le Parti conservateur qui a perdu dans Arthabasca, c'est la démocratie au Québec. Parce qu'on avait une occasion à ce que ça change.
Moi, je vois les choses différemment. T'as pas été assez bon dans ta campagne électorale pour te faire élire dans Arthabasca. Tu t'es fait battre par le candidat péquiste Alex Boissonneau. Et même si t'es allé chercher 500 000 votes aux dernières élections, malheureusement, toi et tes candidats, vous avez pas été assez bon dans votre circonscription pour vous faire élire. C'est plate, mais c'est ça, la réalité.
Puis, c'est sûr que c'est dur pour un chef de parti de dire ce que tu viens de dire, là. Mais il y a moyen de le dire autrement, puis de dire, écoutez, je pense qu'il faut qu'on continue de travailler. On est un jeune parti, et c'est long avant de s'imposer. Dans Arthabasca, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en ligne de compte, mais j'en prends la responsabilité, puis je sais qu'en 2026, on va faire élire des députés. Je suis très, très confiant, puis on va continuer d'apporter notre message auprès des citoyens, puis je le sais qu'on a un message qui est important, et c'est vrai que le PCQ, objectivement, le PCQ a des positions différentes des autres partis. Il brise certains consensus, et c'est vrai que 500 000 personnes qui ont voté
là, on l'écrit ici par texto, puis ça me fait toujours rire. T'sais, tout un tribunal de gauchistes. Moi, je crois pas vraiment à la gauche, à la droite. Je crois juste à la cohérence. Et quand Éric Duhaime sort pour dire « c'est de la faute d'Arthabasca, c'est antidémocratique, c'est à cause des autres partis », sois assez bon, shine. Ben, je voudrais d'un parti conservateur à l'Assemblée nationale parce que je voudrais d'idées différentes. Mais maintenant, Éric Duhaime n'a pas été assez bon.
Il aurait
ça,
voulu,
c'est de sa faute.
Il aurait voulu que les autres partis ne présentent pas quelqu'un contre lui. Mais ça marche pas comme ça.
C'est ça.
Donc, puis en plus, moi, je trouve, on dit tribunal de gauchistes, mais tous les chroniqueurs à peu près au Québec ont dit que ce serait une bonne chose que le Parti conservateur ait une représentation à l'Assemblée nationale. Ça, c'est en théorie.
Oui.
Mais en pratique, c'est vrai que c'était pas au monde d'Arthabasca de porter ça sur leurs épaules. C'est au Parti conservateur de convaincre des électeurs dans des circonscriptions. Et honnêtement, c'est sûr que c'est une grosse déception pour Éric Duhaime. Mais je pense que c'est un mal pour un bien, puisqu'il est aussi bien de se faire élire à Québec. À
clairement.
Mon humble avis.
Et là, la pelleterie va s'ouvrir grande comme le bras avec le départ d'Éric Kerr. Et ça va lui permettre de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Entrée à l'Assemblée nationale que je souhaite, mais c'est juste que je suis contre le discours de « c'est de la faute des autres partis, c'est de la faute des électeurs d'Arthabasca ». Non, sois assez bon pour te faire élire. Il a mis énormément de temps dans Arthabasca et malheureusement, il n'a pas réussi à livrer la marchandise. C'est plate à dire, mais c'est la réalité.
Partie remise pour Éric Duhaime 2026.
Remise.
Ou une autre partielle, qui sait.
Et voilà, le caucus Iaccarini, c'est à chaque jour du lundi au jeudi à compter de midi. Antonine Iaccarini, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je te souhaite un bon week-end parce que c'est jeudi.
Ouais.
On s'en reparle
jeudredi pour moi.
Jeudredi, on s'en reparle lundi. On fait une courte pause. Par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité avec Pascal CV et également un dossier très, très, très intéressant. C'était à la une du site web du Journal de Québec ce matin, des étudiants à l'Université Laval qui se plaignent d'avoir trop de cours en ligne. Ça les isole socialement et ça leur crée des problématiques de santé mentale. Vraiment un sujet fort intéressant à discuter sur les ondes de Boulevard 101. Vous écoutez On en jase le midi avec Jeff Fortin et Pascal CV.
On en jase jusqu'à